Les informations, Jacques Matande.
Jeudi 6 juillet 2006, bienvenue dans cette édition. D'abord les titres du journal. Fraude, abus, exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt au Katanga. C'est les titres d'un rapport de Global Witness pour cette ONG internationale spécialisée dans le domaine minier. À l'approche des élections, les hommes politiques et les entreprises tentent de manière effrénée de s'emparer d'une part plus importante de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. À Maïta, un campement situé à une soixantaine de kilomètres de Mbandaka, la population ignore tout des candidats à la présidentielle. Une mission du Bureau d'information publique de la MONUC à Mbandaka et la CEI a visité cette population riveraine pour leur expliquer le fonctionnement du vote. Et puis, il faut 15 000 dollars pour dépanner un bateau de transport entre Goma et Bukavu. Il a été utilisé par des éléments de la garde présidentielle pour secourir le canot rapide d'une patrouille de l'armée nationale dimanche dernier. C'est tout pour les titres et dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ONG internationale Global Witness, spécialisée dans le domaine minier, affirme dans un rapport publié hier mercredi à Lubumbashi, je cite, « À l'approche des élections, les hommes politiques et les entreprises tentent de manière effrénée de s'emparer d'une part toujours plus importante des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. » Madame Corina Ter-Taskian de Global Witness, chargée de la RDC, résume au micro de Paul Kaboba ce rapport intitulé « Une corruption profonde, fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt au Katanga ». On l'écoute.
Le Global Witness est basé sur des enquêtes que nous avons menées sur terrain au Katanga et décrit des problèmes surtout dans le secteur artisanal minier, comme par exemple la corruption, les conditions de travail très dures des creuseurs artisanaux, les problèmes des exportations illicites et l'ingérence politique dans les contrats miniers. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont, on peut dire, complices dans ces problèmes. Il y a les entreprises, que ce soit les grandes entreprises minières ou les sociétés de négoce qui exportent les minerais, qui souvent agissent en connivence avec les autorités et les forces de sécurité, par exemple pour faire passer des minerais sans les déclarer ou avec des déclarations qui ne correspondent pas aux minerais qui sont en fait sur les camions.
Quand vous parlez de négoce, ce sont des sociétés internationales?
Il y a certaines sociétés étrangères, il y a certaines sociétés congolaises, il y a aussi des individus privés.
En rapport avec les élections, plus de 25 millions d'électeurs inscrits par la CEI, mais la Commission électorale indépendante a imprimé environ 30 millions de bulletins de vote. À quoi vont servir les 5 millions de bulletins supplémentaires? D'après l'abbé Malumalu, il ne s'agit pas de 5 millions de bulletins de vote stockés quelque part. Ils sont plutôt déployés dans tous les 50 000 bureaux de vote existants en raison de 650 par bureau. Et il n'appartient à personne de les utiliser comme bon lui semble. Au micro de Claude Bousset, il explique comment les choses vont se passer.
Mais puisque le chiffre est déjà connu à l'avance, il n'y a pas moyen de tricher avec. Comment est-ce qu'on va contrôler combien de personnes ont voté? On saura combien de bulletins de vote restent. Et ces bulletins de vote ont des numéros de série, comme vous trouvez sur le chéquier. Il n'y a pas moyen qu'on les utilise. La liste électorale est publiée par bureau de vote. On sait à l'avance que tel bureau aura 101 électeurs. On ne peut pas prétendre que tout d'un coup, on va utiliser les 650 bulletins de vote dans ce bureau de vote. Non. Supposons maintenant qu'un bureau de vote, il y a un dégât. On saura à l'avance que dans le centre de vote le plus proche, il y a au moins autant de bulletins de vote qu'on peut aller récupérer. Il n'y a pas moyen de les amener plus tard parce que le bureau de vote est aussi le bureau de dépouillement. L'urne est transparente. Donc on sait à l'avance qu'il n'y a pas eu de bourrage d'urne. Qu'est-ce qui reste aux candidats de faire? C'est de déployer leurs témoins. Les églises, les confessions religieuses, ils vont déployer 50 000 observateurs un peu partout. Mais il y a aussi 24 réseaux d'observateurs congolais dont on ne parle pas. Environ 2 000 observateurs internationaux. Et il y a les témoins des partis politiques. Donc, chacun n'a qu'à faire son travail.
C'était l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la commission électorale indépendante. Campagne électorale, la CEI Katanga rappelle les responsables politico-administratifs et coutumiers à l'ordre. Aucun citoyen, quelles que soient ses fonctions, n'a le droit d'entraver la campagne d'un candidat dans sa circonscription électorale. Selon Albert Kisimba, coordonnateur provincial de la CEI, certains candidats à la députation nationale sont victimes des menaces de la part des responsables locaux. La loi électorale prévoit des sanctions pénales. Albert Kisimba est au micro de Denise Mayo-Moissy.
Il va falloir donner la chance à tout le monde parce que la campagne électorale ou la circonscription électorale n'est pas une chasse gardée d'une seule personne, quand bien même qu'il y ait quelqu'un qui a été nommé pour protéger les biens du pays. Mais puisque nous sommes en train d'aller vers un changement nouveau, il va falloir que chacun ait la chance de se faire voter dans la circonscription électorale où il a posé sa candidature. La loi est claire, toute personne qui entrave le déroulement d'une campagne électorale est passible de plusieurs mois de prison. Et si quelqu'un trouve que tel bourgmestre, tel chef coutumier, tel commissaire de district l'empêche de battre campagne ou le menace de ne pas battre campagne dans sa circonscription, il a le droit de porter plainte au cours des tribunaux pour que celui-ci soit entendu, parce que la loi, il reste la loi.
Au Maniema, Monseigneur Stanislas Longonga, vicaire général du diocèse de Kindu, invite les candidats aux élections prochaines à mener une campagne apaisée. Pas d'attaque personnelle, pas de mensonges, pas d'accusations gratuites. Il demande aussi à la population de choisir librement le candidat de son choix sans être influencé par qui que ce soit. Il s'entretient avec Jean-Serge Chindani.
Nos candidats qui sont ici pour la campagne électorale, l'unique chose que je peux leur demander, c'est d'abord d'observer le code de conduite des partis politiques et surtout de sensibiliser la population de manière à ce que cette population puisse observer aussi une certaine ligne de conduite pendant la campagne électorale. Nous ne voulons pas surtout que les politiciens qui nous viennent en campagne se lancent ici dans une campagne de diffamation, d'injures, ainsi de suite, vis-à-vis de leurs concurrents. Nous pensons que cela est déconseillé et du point de vue chrétien, ce n'est même pas charitable.
Sécurisation des candidats au scrutin présidentiel. Les candidats à la présidentielle ne sont pas tous unanimes sur l'offre de leur sécurisation que l'inspection générale de la police leur propose. Dans un communiqué publié le 3 juillet dernier, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a lancé un appel aux candidats pour finaliser les modalités relatives à leur sécurisation pendant la campagne électorale. Ces documents faisaient suite à la rencontre du 29 juin dernier entre la CEI, le SIAT, la police et les différents candidats autour de leur sécurisation. René Capita pour les détails.
Pour certains candidats, cette offre de la police est une bonne chose dans la mesure où elle répond à la préoccupation de la sécurisation des candidats présidents de la République. C'est le cas de Roger Lumbala.
Je réagis positivement dans le sens où les demandes ont été prises en considération par l'équipe qui s'était réunie. Ce qui reste à savoir, qui compose ces éléments de la police qu'ils vont mettre tout près des candidats présidents? Est-ce que ce sont les éléments brassés ou ce sont les éléments qui ne sont pas brassés qui peuvent venir d'une milice quelconque? Sur le principe, nous sommes tout à fait d'accord, mais nous irons en discuter avec celui qui a lancé ces communiqués pour que nous puissions voir quelles sont les modalités pratiques.
Pour d'autres, par contre, cet appel de la police constitue une diversion. Selon eux, la police ne peut pas décider seule de leur sécurisation. Anatole Matusila.
C'est une mascarade des autorités dont relève la police, parce que moi j'avais une police qui était commise à ma sécurité. On m'a retiré cette police-là. Mais maintenant, les autorités veulent me donner une police pour quelle mission? Je ne peux pas accepter pareille chose. Pourquoi on retire une police pour me substituer à une autre police alors que c'est la même police nationale? C'est une diversion. Ils n'ont pas envie de faire leur travail. Et c'est pour intimider le candidat, pour leur empêcher de descendre sur le terrain et de travailler tout simplement.
Le directeur de cabinet de l'inspecteur général de la police a précisé que les candidats doivent d'abord se présenter à l'inspection générale pour remplir certains documents avant de contacter l'unité de police intégrée. C'est cette unité qui devra fournir des éléments pour leur sécurisation.
Bouclons ce chapitre électoral dans la province de l'Équateur. Comment la population de Maïta va-t-elle pouvoir voter? C'est le but de la mission organisée mardi dernier par la MONUC Mbandaka en collaboration avec la CEI au profit de la population de Maïta, campon situé à une soixantaine de kilomètres de Mbandaka, province de l'Équateur. Ces populations riveraines ignoraient le fonctionnement du vote ainsi que les listes de candidats pour les prochaines échéances électorales. Askin Zigbia Tayoro depuis Mbandaka.
Sur 33 candidats au présidentiel à Maïta, les populations ont une opinion uniquement sur les candidats issus de la formule 1 plus 4. À peine deux noms des 33 candidats présidents de la République sont connus de la population de ce campement situé à plus de 60 km en aval de Mbandaka sur le fleuve Congo. Les uns estiment que deux noms ne suffisent pas. Pour d'autres, la présence de chaque candidat dans ce campement serait la bienvenue, ce qui pourrait aider la population à mieux choisir les nouveaux dirigeants. Témoignage.
Nous sommes contents de la manière dont on nous a montré comment voter. Mais nous avons des difficultés. Nous ne connaissons pas ces candidats. Nous avons aussi qui sont 33, Par exemple, sur 33, je n'en connais que 5. Il a suffi qu'on vienne nous expliquer qui sont ces 33 candidats. Il n'y a plus de temps. Est-ce que nous parviendrons à les connaître pendant un mois seulement de campagne? Comment allons-nous voter?
Dans ce campement, la campagne électorale ne se fait pas encore sentir. Quelques responsables de partis politiques basés sur place se lamentent, car ils estiment que cette campagne est surtout verbale. Ils déplorent le manque de moyens financiers et logistiques pour battre comme il se doit la campagne et sensibiliser la population à ce processus préélectoral. Le coordonnateur de la CI Équateur, Albert Mayoka, a invité les populations de Maïta à participer massivement aux élections et les a incités à voter librement, sans contrainte, pour le nouveau dirigeant de la RDC. De Mbandaka à Skenzigbert Tayoro, Radio Okapi.
7h10 à Kinshasa, vous écoutez Radio Capi, une heure de plus au Nord Kivu. Il faudra plus de 15 000 $ pour réparer le bateau Safina, un des plus grands bateaux de transport entre Goma et Bukavu, qui est depuis dimanche dernier hors d'usage. Ces pièces importantes ont été endommagées, ceci suite à une réquisition du bateau par la garde républicaine pour sauver un canon rapide de la force navale pris dans un rocher. Entre-temps, près de 40 personnes vont rester sans travail pendant au moins un mois. Jean-Marie Doumaé Mouka, commissaire maritime et commandant du port de Goma, il est au micro de Charles Ntrukcha.
Une équipe, quelques militaires de la force navale et ceux de la garde républicaine ont fait éruption au port. Malheureusement, ils ont pris un bateau qui était chargé, qui avait 80 tonnes à bord, le bateau MV Safina. Quand il est arrivé dans cette passe côtière où se trouvait le bateau en détresse, il est allé échouer sur des pierres. Nous avons constaté que la mèche du gouvernail s'était cassée, ce qui a automatiquement occasionné le détachement du safran qui est tombé dans l'eau. Nous avons constaté qu'il y avait des cornières et les épontiers au niveau de la salle des machines qui s'étaient dessoudées. Le choc qu'avait subi l'hélice avait provoqué une légère courbure des pales et de l'axe, ce qui d'ailleurs a provoqué un choc au niveau de l'inverseur qui est la voie de vitesse. Donc il y a actuellement le dysfonctionnement de l'inverseur de ces bateaux.
Radio Capi a essayé de contacter le commandant de la GSSP et celui de la force navale pour savoir comment vont se faire les réparations, mais sans succès. Les 140 clients qui avaient acheté leur billet pour voyager à bord du bateau Safina dimanche ont été remboursés, selon le commissaire maritime, qui ajoute que le bateau a été remorqué à Bukavu pour être inspecté dans le registre humanitaire. D'après le nouveau chiffre avancé par le Bureau des Nations Unies chargé des affaires humanitaires au Tchad, plus de 5 000 déplacés sont arrivés à Bounia depuis le début de cette semaine. Ces personnes disent avoir fui les affrontements entre les FRDC et les miliciens du MRC dans la partie sud d'Irumu, à 56 km au sud de Bounia. Le chargé de l'information de Ocha à Bounia précise qu'une démarche est déjà en cours pour ouvrir un site d'assistance humanitaire pour ces déplacés. De Bounia, Bernada Nyangi.
Selon le chargé d'accueil des déplacés, 990 familles, soit environ 5 000 individus, sont accueillis provisoirement dans l'enceinte du lycée Tiam Tiam de Bounia. Les conditions dans lesquelles ils vivent laissent à désirer. 41 enfants de moins de 5 ans et 38 adultes souffrent de maladies différentes suite aux mauvaises conditions d'hygiène et sans aucune assistance médicale. Témoignage. Les affrontements ont commencé du côté de Songolo. Ils opposaient les miliciens et les FRDC. Nous, les civils, nous avons eu peur puisque les miliciens repoussaient les FRDC jusqu'à chez nous et nous sommes sortis. Notre village a été incendié complètement par les miliciens. À Kombokabo, toutes les maisons sont brûlées. Côté humanitaire, une démarche est déjà prise pour ouvrir un site d'assistance humanitaire à Dele, localité située à environ 100 km au sud de Bounia. Plusieurs ONG humanitaires viennent de promettre l'assistance. Une fois les déplacés seront réunis dans ce site, Idrissa Conté est le chargé de l'information à Ocha Bounia.
Le PAM va faire la distribution des vivres, l'UNICEF va faire la distribution des non-vivres et des bâches. Solidarité vont mettre l'eau et assainissement dans ce site. Donc, il y a aussi les partenaires comme la Caritas, Média, sont prêts à intervenir donc, pour les soins médicaux.
Signalons aussi que les activités humanitaires sont suspendues momentanément dans la région de Tchéi pour des raisons sécuritaires. De Bounia, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Province du Sud Kivu, Avocats sans frontières vient d'ouvrir un bureau de représentation à Bukavu. Cette ONG belge s'occupe de faire respecter les droits de l'homme dans le monde. Et selon elle, il y a de nombreuses violations de droits de l'homme au Sud Kivu et les habitants de la province ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Hugues Mukendi, représentant d'Avocats sans frontières à Bukavu, au micro de Wing Ahmed.
C'est un endroit où tout le monde, toute personne peut venir s'y renseigner, c'est-à-dire demander gratuitement des informations juridiques, des informations sur le droit, sur les lois, sur les tribunaux, les procédures, en toute matière. En fait, c'est que nous avons remarqué en fait, que la loi est un peu étrangère à la population. Lorsqu'il y a un conflit ou un problème qui surgit entre les individus dans la société, dans la plupart des cas, il y a recours à la justice privée, c'est-à-dire les gens se rendent eux-mêmes justice. Et dans la plupart des cas, même s'ils avaient raison, ils ont tort et ils se retrouvent en prison.
En page internationale, avant de boucler ce journal, le représentant spécial du secrétaire général pour le Soudan, Jean Prong, s'est félicité de la décision prise par l'Union africaine au sommet de Banjul ce week-end de proroger le mandat de ses troupes déployées au Darfour jusqu'à la fin de l'année. Et puis le virus de la grippe aviaire, dans sa forme hautement pathogène, H5N1, est arrivé au Nigeria par des multiples portes, alors que la politique menée par le gouvernement local reposait sur la croyance qu'il avait une source unique. C'est la fin de ce journal. Il est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Okapi.